Bonjour à toutes, nous allons commencer le culte, donc je vous prie de prendre place. Alors je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, à celles qui viennent régulièrement, à celles et ceux qui viennent régulièrement, à ceux qui viennent de temps en temps, ou peut-être à vous qui êtes revenus de vacances. J'espère que les vacances se sont bien passées. Et nous accueillons aussi ceux qui viennent peut-être pour la première fois, et ceux qui nous regardent en streaming. Donc soyez tous les bienvenus, et nous souhaitons aussi la cordiale bienvenue à Noémie Girardet, qui va nous apporter la prédication ce matin. Et je pense qu'elle se présentera elle-même plus tard. Voilà. Juste que vous sachiez, Philippe n'est pas là aujourd'hui, il est à Nédon, et il prêche là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que Noémie est parmi nous aujourd'hui. Alors, dans ce culte de ce matin, il va être question de la colère. Et c'est une émotion que, je pense, nous connaissons tous. Certains d'entre nous plus que d'autres, d'autres un peu moins. En ce qui me concerne, c'est une émotion que je connais très bien. Et je suis un peu, c'est-à-dire assez souvent, comme le petit bonhomme qui va s'afficher là, maintenant, que vous voyez, si jamais ça marche, Alaya. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur mon visage, des fois, je suis comme ça. Je ne suis pas seulement un agneau, des fois, je suis aussi une petite lionne. Par exemple, quand l'ordinateur ne marche pas, j'ai bien envie de le jeter par la fenêtre. Ou bien, cette semaine, je me suis beaucoup énervée aussi, j'étais comme ça, assez souvent. Mais voilà, après, je me calme. Donc, on va voir ce que Noémie va nous dire à propos de la colère dans sa prédication. Et puis en attendant, j'aimerais bien remettre ce culte dans les mains de Dieu et puis prier avec vous. Seigneur, je te remercie que tu connaisses chacun d'entre nous. Tu es là pour nous aimer, mais aussi pour nous transformer à ton image. Laisse-nous ouvrir notre porte pour que tu puisses faire ce travail en nous, au travers de ton Saint-Esprit. C'est lui qui sait le chemin et c'est lui qui nous guide. Que le Saint-Esprit ait cette liberté de travailler nos cœurs selon ta volonté. Amen. Et nous allons passer maintenant à un temps de louange et je laisse la parole à l'équipe de louange. Merci.
Bonjour. Il y a une semaine, donc le jour de Pâques, Denise, elle nous a fort bien exprimé ce paradoxe un peu dans lequel se sont retrouvés les disciples et les amis de Jésus au lendemain de la crucifixion, hein, de leur ami, de leur maître. Dans leur état de désolation, de tristesse, de dépression, il n'y avait que le noir qui pouvait être vu et entendu. Et puis dans ces situations où on est un peu dans le creux de la vague, eh ben, c'est pas possible d'entendre ceux qui nous disent « Mais la vie est belle, regarde autour de toi, sors, fais des projets, souris à la vie. » On peut pas entendre ça quand on est au creux de la vague. Un mal-être, c'est un mal-être. Et puis, en sortir, ça se fait pas sur commande. Et pour les disciples de Jésus, Jésus, il était mort. Il est mort, il est crucifié, c'est fini. Ils ont mis de l'espérance pendant 3 ans, puis c'est fini. Donc comment Jésus a rencontré les disciples, puis il leur a dit, regarde, la vie est belle. Comment il a fait? Comment il s'est approché de ses disciples pour leur faire remonter la pente? Eh bien, par un contact très personnel. Qu'est-ce qu'il a dit à Marie, qui croyait parler au jardinier? Jésus lui dit, Marie, il l'a juste appelée par son prénom. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus, il veut encore nous appeler par notre prénom. Il veut encore partager le pain avec nous pour nous montrer sa présence. Il veut encore nous envoyer son Saint-Esprit parce qu'il est vivant. Le jour de Pâques, il est ressuscité. Alors, il attend que nous lui fassions confiance et puis que nous lui disions simplement « Je crois en toi ». Et c'est parce que la croix n'a pas été une fin, mais une étape vers la réconciliation avec Dieu, que Dieu il veut repartir avec nous et que nous, on peut aller avec lui. Merci parce qu'il veut nous relever. Et c'est ce que dit ce chant. Merci pour la croix. Chantons ensemble ces chants de louange et célébrons notre Dieu. Projection, on va attendre que la projection se mette en place.
Pour ton amour
De te suivre, nous te demandons de nous attirer à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as promis ta présence dans tous les instants de joie, les instants de plaisir, mais aussi les instants où on se sent seul au fond du trou. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Je veux te suivre. Jésus, je te suivrai.
Merci beaucoup. C'est maintenant le temps pour les enfants d'aller dans leur groupe. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a? Ok. Alors, j'aimerais juste prier pour vous avant que vous descendiez, si c'est possible. Seigneur, je te remercie pour les enfants qui sont là aujourd'hui. Je te remercie pour chacun d'entre eux, car ils sont magnifiques. C'est ton œuvre. Seigneur, donne-leur la joie qui vient de toi, ta joie. Transforme-les eux aussi, nous et eux. Qu'ils soient transformés par ta parole, par ton amour et par ce qu'ils vont entendre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui s'investissent pour eux ici et aujourd'hui. Amen. Merci à Rebecca, à Chantal et à Alexandre. Je crois qu'il fait aussi partie. Merci beaucoup. Bon culte, les enfants. Et puis maintenant, nous allons écouter la prédication de Noémie. Merci.
Merci beaucoup. Parfait, il y a déjà le micro qui marche. Le souci, c'est peut-être le PowerPoint, mais on va s'arranger. Bon. Merci beaucoup de m'accueillir. En tout cas, je me suis sentie très accueillie ce matin. C'est la première fois que je viens ici. Et je me présente, je m'appelle Noémie Girardet. Je viens de l'église de l'Oasis à Morges. Et d'ailleurs, petite anecdote, je me sens tout de suite comme à la maison ici, parce que chez moi aussi, les premiers rangs sont souvent vides. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et j'ai 28 ans, et sinon, pour rapidement, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'histoire. Et je fais des prédications depuis, je crois, environ 6 ans dans mon église. Voilà. Mais c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai rencontré Philippe il y a quelques mois et c'est lui qui m'a proposé de venir. Alors voilà. Merci. Juste déplacer le micro. Alors aujourd'hui, on va parler de la colère. Et comme l'a très bien dit Aline avant, petit sondage, qui ici ne s'est jamais mis en colère? Bon, voilà, je crois que le premier constat est très clair. C'est que c'est quelque chose que l'on vit tous et toutes. En arrivant ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, il pleut. Voilà. Et il y a des petits escargots sur les escaliers à l'entrée de l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ça m'a rappelé une anecdote qui est que depuis toute petite, moi j'ai un rapport à la colère. Par exemple, dans la cour d'école, quand j'étais à l'école enfantine, je me mettais en colère contre mes camarades de classe quand ils écrasaient les vers de terre et qu'ils tuaient les escargots. Et c'est un rapport à la colère que j'ai depuis toujours. Et si je pense que pendant longtemps, je me suis mis en colère contre Dieu pour plein de choses... Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que je me mets souvent en colère avec Dieu. En tout cas, c'est mon objectif. Et c'est ce que je vais essayer de vous apporter ce matin. On va être dans Éphésiens 4, si jamais. Je ne sais pas si vous voulez prendre... voilà. Ouh, ça... ouais, super. Ça fonctionne. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre vos Bibles, parce qu'on va pas mal parcourir Éphésiens 4, surtout la deuxième partie. Et je trouve que c'est toujours plus agréable si on a le texte sous les yeux. Et dans tous les cas, je vous invite cette semaine qui va venir à revenir sur ce texte parce que c'est toujours une bonne idée de le méditer, même si on a eu une prédication dessus, de continuer à le méditer. Alors la colère, c'est une émotion. Une émotion, on ne peut pas choisir qu'elle soit là ou pas, elle est là. On ne peut pas l'enlever de notre vie, comme la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, la joie. On ne peut pas s'en débarrasser, et heureusement, parce que c'est ça qui fait que nous sommes des humains. Par contre, on peut décider ce qu'on en fait, comment on les gère. Alors ce matin, je m'adresse à tous et toutes, et on va se poser la question, que dit la parole sur la colère? Que nous enseigne l'exemple du Christ ? Alors, il y a la colère contre soi, contre Dieu et contre les personnes et certaines situations. C'est plutôt cette troisième catégorie qu'on va étudier aujourd'hui. Ça tombe bien qu'on soit dans Éphésiens 4, parce que j'ai vu que vous étiez aussi dans Éphésiens 4 il y a à peu près un mois pour le culte des baptêmes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. Mais du coup, ça serait plutôt la deuxième partie du texte, alors que vous avez plutôt étudié la première partie du texte, sauf erreur. Alors, la lettre aux Éphésiens, elle traite de l'Église et de son rapport au monde, donc de l'unité de l'Église en Christ, et de la nécessaire prise de distance à l'égard du monde ambiant. Attention, je n'ai pas dit retrait du monde, mais prise de distance. Les chapitres 4 et 5, c'est la partie éthique de cette lettre. Et puis aussi, c'est intéressant de savoir que c'est une lettre qui se transmettait entre les premières communautés. Et si elle arrive chez nous aujourd'hui, elle nous est aussi adressée. C'est une lettre qui s'adresse à toutes les églises. Je vais volontairement lire dans Second 21, même si j'ai une petite préférence pour la Nouvelle Français Courant, au niveau version des Bibles, parce que, enfin, vous comprendrez pourquoi, et parce que c'est souvent la version qui est la plus présente dans nos églises. Donc nous allons lire les versets du 17 à 32, la partie qui s'intitule « La vie nouvelle en Christ ». Mais je vais quand même vous rappeler succinctement ce qui précède, parce que c'est toujours important de savoir dans quel texte s'inscrit un verset. Donc ce qui précède parle de l'unité de l'Église et de la foi, le fait que nous avons reçu un appel, une vocation, et qu'on doit s'en montrer digne. Mais quel est cet appel ? Alors il est dit aussi qu'on reçoit différents dons, donc des cadeaux de la part de Dieu, pour l'édification de l'Église en vue du service. Et c'est ça notre appel. Si vous vous êtes déjà posé la question « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?», c'est ça. C'est utiliser les dons qu'il nous a donnés, qu'il nous donne, pour l'édification de l'Église et en vue du service. Et tout cela, on le vit en communauté. Il y a une insistance sur les ministères de la parole dans Éphésiens 4. C'est ce qui permet de garder l'unité face aux mensonges. Et tout cela dans quel but ? Pour l'unité dans le Christ, pour grandir dans la vérité de l'amour, avec humilité, douceur, patience, bienveillance, pour passer d'un état d'enfant à un état d'adulte, donc la maturité de l'adulte. Voilà. Et quand on se met en marche, quand on essaye de se mettre en marche dans notre appel, on apprend à se connaître nous-mêmes, tel que Dieu nous a créés, mais aussi à connaître Dieu, surtout à connaître Dieu. À présent, je vais lire la suite, de 17 à 32. Éphésiens 4, 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, en vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Et là, c'est les versets qui nous intéressent. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Deuxième verset où la colère est mentionnée. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Alors, Est-ce que... Pardon, je suis vraiment très distraite. Voilà. Donc cette partie que je viens de lire, de 17 à 24, c'est une comparaison que Paul fait entre l'existence avec Christ et l'existence sans Christ, donc plutôt éloignée du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les non-chrétiens sont des affreuses personnes, mais plutôt dans cette idée d'éloigner du plan de Dieu. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une vie éloignée du plan de Dieu ? Et ce matin, on va spécifiquement axer cette question sur la colère. Qu'est-ce qu'une colère éloignée du plan de Dieu ? La suite de 25 à 32, c'est un approfondissement théologique non exhaustif qui met l'accent sur une éthique de la vie communautaire. Comment vivre ensemble ? Il y a plusieurs conseils. On voit l'impact des comportements individuels sur le groupe. Et on comprend certaines valeurs générales axées sur l'amour, le pardon. Il y a aussi un appel à notre responsabilité, à notre capacité de discernement, en faisant le lien justement avec cette maturité spirituelle qu'on a déjà évoquée. Alors concernant la colère, il y a deux versets, je les ai soulignés en lisant, le 26 et le 31, qui sont liés à la colère. Dans Second 21, donc la version de la Bible que j'ai choisi de vous présenter ce matin, c'est écrit du coup, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Une des premières choses que je trouve très intéressante, c'est que ce choix de traduction n'est pas celui de plein d'autres Bibles. Et si on regarde une traduction qui est peut-être plus fidèle au texte grec, qui a été choisi par exemple par la Bible du Semeur, la King James, ou plus récemment encore la Nouvelle Français Courant, on lit non pas « si vous vous mettez en colère », parce que quand on dit « si vous vous mettez en colère », c'est « oui bon, si d'un coup, genre essayez de ne pas vous mettre en colère, mais si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, bon voilà comment gérer la situation ». Non, la traduction qui a été choisie, c'est « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence fondamentale que c'est, déjà. Il y a une sorte d'ordre, si on pousse un peu. Ça voudrait dire, est-ce qu'il y a des raisons valables de se mettre en colère ? Et si on nuance un peu, c'est, de toute manière, on peut comprendre, vous pouvez vous mettre en colère, mais voici la condition. Ne pas pécher, ne pas louper la cible, ne pas s'éloigner du plan de Dieu. En gros, se mettre en colère, mais en suivant l'exemple du Christ. Ça détruit l'idée reçue comme quoi la colère serait en soi un péché et une faute. Une émotion ne peut pas être un péché, vu qu'on ne choisit pas de vivre ces émotions. Nous avons tous le droit de nous mettre en colère. C'est cette autorisation et cette liberté qui a peut-être fait peur à certains traducteurs, parce que c'est vrai que comment gérer ça dans une église ? Surtout si on est dans une église dont la tête a beaucoup de pouvoir et dont la tête exerce beaucoup de contrôle. On préfère dire non, il ne faut pas se mettre en colère. Alors voilà, mettez-vous en colère. C'est intéressant aussi parce que ça nous montre que la finalité dans notre vie de foi, ce n'est pas d'être une coquille vide qui ne ressent rien, neutre, avec de l'apathie et qui est lisse comme ça, qui n'a pas de variation. Non, on est appelé à vivre ses émotions, et vivre ses émotions, c'est une force. Tout ce qui compte, c'est d'apprendre à les comprendre, à les gérer. Et c'est ça qui va être une preuve de maturité. Cette maturité spirituelle, c'est d'apprendre à connaître Jésus pour approcher de la vérité, se laisser renouveler par l'Esprit Saint dans notre intelligence, ça veut dire dans notre manière de réfléchir. Et c'est ça qui nous transforme, qui fait qu'on devient un homme et une femme nouvelle, nouveau. Quand on cherche la vérité, on est plus sensible à la justice de Dieu, celle qu'on trouve dans la Bible, et donc aussi à l'injustice. D'ailleurs, la colère, c'est une caractéristique divine. On la trouve tout au long de la Bible. La colère de Jésus, très connue, celle dans le temple face à la marchandisation de la foi. Attention, c'est un sujet très précis contre lequel Jésus s'énerve à ce moment-là. C'est contre la marchandisation de la foi. Sa colère face aux pharisiens, très connus aussi, qui traitent d'hypocrites, de race de vipères. Il n'a pas les mots, il n'utilise pas des mots légers. Hein. Il les accuse même de par leur attitude légaliste, d'empêcher les autres d'accéder à Dieu. Très grave comme accusation. Et chaque fois qu'on parle des pharisiens, c'est très intéressant de se poser, est-ce que ce ne serait pas nous aussi ? Oui, les mots les plus durs de Jésus n'ont pas été adressés aux pécheurs, pécheuses les plus faciles à accuser, mais à ceux qui ont un plus haut statut dans la société et qui utilisent la religion comme un outil d'oppression et d'accès au pouvoir. Ça rappelle aussi la colère de Dieu transmise par les prophètes envers les puissants dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la Bible. Alors voilà, je crois qu'aujourd'hui, Dieu a encore bien des raisons d'être en colère. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes appelés à imiter Dieu en suivant l'exemple du Christ, à nous débarrasser du mensonge et à proclamer la vérité. Parce que nous formons un corps et nous sommes tous et toutes concernés par le plan de Dieu pour le monde. C'est ça notre appel, servir notre espérance. Mais évidemment, je vais le dire tout de suite, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes imparfaits et la vérité nous apparaît encore partiellement. C'est pour ça que Paul, dans ce texte, il nous donne, et dans d'autres, nous donne des conseils de comment gérer ces choses-là. On voit par exemple dans les versets 17 à 18 que les obstacles au plan de Dieu, c'est la sottise, l'ignorance, l'endurcissement du cœur. Et c'est ça qui mène à une perte de morale, à l'excès, à l'avidité. Donc là, on peut déjà estimer qu'il y a un guide pour, dans notre manière de gérer notre colère. Parfois aussi, les mauvaises raisons qui nous mettent en colère, c'est la peur, le manque de flexibilité parfois, quand on ne sait pas comme on veut, quand on a l'impression de perdre le contrôle, aussi parfois par égoïsme, par égocentrisme, quand on est déçu de quelqu'un ou de quelque chose, quand on est blessé, et aussi, dans l'Église, par l'égalisme parfois, parce qu'on a l'impression que les gens ils respectent pas les règles et la tradition. On est tous concernés par ce que je viens de citer. Et ça, c'est une mauvaise raison. Mais il y a aussi une mauvaise manière. Et ça, on va peut-être relire le verset 32 qui nous indique cette mauvaise manière. Verset 31, pardon. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, ces choses qui sont décrites, c'est, on peut estimer, la colère avec péché. Celle où il y a des éclats, de l'amertume, des insultes. On peut dire cette colère avec violence, où il y a qui comprend de la violence. Et ça, la Bible qui nous enseigne plutôt à être pacifiste, on n'est pas très étonné de lire que ce n'est pas une bonne idée. Parfois, on est aussi aveuglé par un manque d'empathie, de compréhension. Quand par égoïsme, on manque d'humilité aussi, des fois par faiblesse. Quand on n'arrive pas à se mettre à la place des autres. Et par ces quelques exemples, on voit que si on peut se mettre en colère, si on a le droit de se mettre en colère, c'est important de le gérer de la bonne manière. Parce que nous sommes appelés à construire le bien et non le mal. La fin du verset 26, que je vais vous relire, c'est pourquoi... Non, pardon, je suis complètement perdue... Ah oui, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Et la deuxième partie, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça rappelle aussi Matthieu 5, verset 22-23, où il nous est dit que, où Jésus nous dit que si on est fâché avec notre frère ou notre sœur, avant de faire des offrandes à Dieu, c'est plus urgent d'aller faire la paix avec notre frère ou notre sœur. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, moi je l'aime beaucoup. Ma maman me le répétait souvent quand j'étais petite. Ça, c'est les versets que les parents, ils aiment bien. Voilà. On voit que la colère qu'on ressent, elle signale une urgence. Il faut s'y atteler, il faut la traiter. C'est quelque chose qui est là, qui est urgent. Sinon, le risque, c'est de tomber dans la haine, qu'il y ait la séparation, de la rancune, même un cycle de violence qui se met en marche. Voilà. Alors, comment la traiter ? Le verset 26, c'est aussi une référence au psaume 4, verset 5, qui nous dit « Quand vous êtes en colère, ne péchez pas, réfléchissez pendant la nuit, mais gardez le silence. » Ou aussi, on peut faire le lien avec le psaume 103, verset 8, qui nous dit que Dieu est lent, qu'on a un Dieu qui est lent à la colère, qui est plein de tendresse et de bienveillance, d'une immense bonté, Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, etc. Je vous invite à aller le relire, le psaume 103. Alors voilà, si Dieu arrive, si Dieu est comme ça, ô combien nous, on a encore moins de raisons de se mettre en colère que lui. Voilà, ça a de quoi nous inspirer, nous qui sommes censés imiter Dieu. Il y a Jacques 1 aussi, au verset 19, qui nous dit encore que chacun s'empresse à écouter, mais soit lent à parler, lent à se mettre en colère. Il ajoute aussi, car une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que dans les fruits, le fruit de l'esprit, c'est, l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Jacques nous incite à maîtriser notre langue. Au sein d'un texte qui nous incite quand même à mettre la parole en application et à venir au secours de l'opprimé, mais on en viendra un peu plus tard. Donc voilà, quelques conseils pour gérer correctement notre colère. D'abord, la repérer, se dire « Ah oui, là, je suis en colère ». L'accueillir, puis essayer de ne pas agir sous cette colère, se mettre en retrait dans le silence, prendre un moment d'écoute, de prière, un moment de réflexion. Et tout cela, toutes ces étapes précèdent la parole. Éphésiens 29 nous avertit en effet qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche. Les bonnes paroles, mais seulement des bonnes paroles qui servent à l'édification et remplies de grâce. Donc voilà, après toutes ces étapes, si on juge que notre colère, elle est légitime et qu'elle mérite une action ou des paroles, ou que des paroles soient dites, allons-y. Mais étayons cette colère par des faits, une réflexion approfondie. Alors voilà, évidemment, c'est subjectif. Et prendre la parole demande du courage, surtout dans des contextes peut-être où c'est parfois difficile de prendre cette parole. C'est pourquoi nous aussi prenons l'habitude de recevoir et d'écouter la colère des autres personnes, comme nous, on aurait envie que notre colère soit reçue. Voilà, tout ça, on est plutôt bien parti. C'est notre objectif dans tout ça, c'est la justice, la paix, la réconciliation. Voilà, toutes ces notions pour avoir des bonnes relations dans l'Église. C'est un équilibre qui est difficile à trouver, hein. Mais c'est nécessaire d'exprimer une colère qui est légitime. Il n'y a pas de vie en communauté sans parole, sans communication. C'est pareil avec Dieu. Le langage est l'une des premières choses qui nous relie à Dieu. Et lui exprimer notre colère permet de garder le lien, comme l'a fait Job. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait remettre au goût du jour la lamentation. Voilà, c'est pas très évangélique, mais moi ça me parle. Je trouve qu'on devrait remettre ça au goût du jour. Quelques conseils de communication. Ne pas soupçonner le mal d'office. Ne pas partir du principe que nos frères et nos sœurs nous veulent du mal. Rester à l'écoute, dans le respect. La personne en face, elle a peut-être des arguments légitimes aussi qui vont nous mettre en question. Essayer de rester humble, parce que ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on possède la vérité avec un grand V. Quand on prend la parole, avoir une écoute et une parole prendre la parole et écouter avec une attention égale, parler en jeu plutôt, ça c'est la communication non violente. Et je trouve intéressant aussi de rediriger notre colère, qui serait peut-être au départ envers une personne, de la rediriger vers plutôt un sujet ou une attitude ou une situation. Ça permet de discuter des vraies choses. Ne pas être là pour condamner, mais pour construire, pour questionner, pour faire bouger les lignes. Que notre colère ne soit pas l'occasion d'aller pointer du doigt la paille dans l'œil de notre voisin, si vous voyez ce à quoi je fais référence. Apprendre à gérer sa colère et à lui laisser une place permet plusieurs choses. D'éviter l'explosion qui est décrite au verset 32, où il y a les insultes, l'amertume, tout ça. Donc éviter le péché. De garder le lien entre les gens dans la communauté, notamment. De construire le bien, on l'a vu. Et le verset 23 nous dit que nous sommes renouvelés par l'esprit dans notre intelligence. Jacques 3 aussi, 17-18, nous dit que la sagesse d'en haut est pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux et celles qui travaillent à la paix. Ça fait référence aussi aux artisans de paix que Jésus nous conseille d'être dans le Sermon sur la montagne. Et là, en fait, dans cette notion de sagesse, il y a toutes les notions qui traversent Éphésiens 4. C'est pour ça que je vous incite à aller relire dans l'entier le texte. Le fait de répondre à notre appel en suivant l'exemple de Christ, de travailler à l'édification du corps vers l'unité de la foi, de grandir, construire le bien, suivre le chemin de la vérité, donc de Christ, qui conduit à la justice et à la paix, à plus de justice et plus de paix. Éphésiens 4, c'est aussi une référence à Zacharie 8, où il est dit « Aimez la vérité et la paix ». Et là, s'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que la paix, ça ne veut pas dire le calme. Des fois, il y a un semblant de paix, où il y a un calme, où il n'y a pas... tout est calme. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la justice. Et c'est pour ça que la colère peut nous amener à plus de justice, pour ensuite revenir à plus de paix. Alors, ayons une parole qui redresse, qui guérit, qui met en chemin. Et non qui brime, abaisse et blesse. C'est là tout le défi de la colère sans péché. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous choisissez d'ignorer votre colère par peur du péché, c'est sûrement pas une bonne idée. Parce que là, on pourrait se dire, ah, il y a tellement de choses à faire attention, je préfère ne pas me mettre en colère. Ben, c'est pas une bonne idée non plus. Parce que contenir sa colère, l'ignorer, ça nous expose au risque d'explosion violente, non maîtrisée, qui est décrite au verset 32, ou là, au verset 31, où il y a de la violence qui émane. Ça nous expose au risque, de ne pas être soi-même, de jouer un rôle, de manquer d'authenticité. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans l'Église, on a envie d'être authentique. Ça nous expose au risque de devenir une personne justement lisse, passive, indifférente et en somme assez individualiste. Dans son fameux essai, enfin s'il n'est pas fameux pour vous, je vous invite à ce qu'il le devienne, « Indignez-vous », qui a été écrit en 2010 par le diplomate français et ancien résistant Stéphane Hessel, il écrit dans cet essai « La pire des attitudes est l'indifférence ». Dire « je n'y peux rien, je me débrouille », en vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain, l'une des composantes indispensables, la faculté d'indignation, et l'engagement qui en est la conséquence. J'aime beaucoup ce texte, parce que pour moi, il est très proche de ce qu'on peut trouver dans la parole. Voilà. Le pire, c'est de ne pas s'indigner, c'est de se contenter, de se satisfaire du présent. Et la tristesse, c'est qu'on peut constater que parfois dans notre milieu, mais aussi dans d'autres, mais parlons de notre milieu, la colère est associée au péché. Et on reste enfermé dans cette passivité, on se renferme sur nous-mêmes, dans l'inaction, et au final aussi dans un certain retrait du monde. Mais aussi, ne pas se mettre en colère, ça permet aussi les abus et l'oppression, dans nos rangs aussi. Interdire la colère ou faire comprendre qu'elle n'est pas bienvenue, c'est aussi un outil de contrôle puissant. Alors qu'au contraire, il y a bien des raisons de s'indigner. Mettez-vous en colère. Cherchez à construire le bien. La colère, c'est ce qui nous permet de quitter ou de changer une situation. Tout comme l'espérance, elle est un puissant moteur d'évolution et d'action. Ne prenons pas le risque de se retrouver qualifiés de tièdes, comme l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. Des gens qui sont ni froids ni bouillants, qui se contentent d'accumuler les biens matériels pour leur confort. Tout l'Occident est concerné par cette phrase. Qui se retrouvent au sens spirituel, aveugles, malheureux, misérables, nus, pauvres. Et même, et ça c'est vraiment une phrase que je trouve intense, à vomir de la bouche de l'Éternel. Le pire, c'est l'indifférence et l'inaction. Mais il y a de l'espoir même pour Laodicée, alors qu'on pourrait croire que c'est fini pour eux. Dans Apocalypse 3, 19, il y a quand même, ça revient dans le positif en disant « Aie du zèle et repens-toi avec l'aide de Dieu ». Alors, ayons du zèle et repentons-nous. Ne soyons plus comme des éternels enfants ballottés comme dans Éphésiens 4, 14, mais cherchons une foi mature, avec une profondeur de réflexion, comme des adultes avec une responsabilité personnelle devant Dieu, celle de nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Nous avons des dons différents, des sensibilités différentes, plusieurs combats en parallèle, mais une même foi en Dieu. Mais un même but, la justice et la paix dans l'amour de Dieu. Un même chemin, le Christ. Une même espérance, celle de l'avènement du royaume de Dieu. Et je crois fermement que lorsque nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, quand nous sommes remplis de l'Esprit, quand nous sommes en relation vivante avec Dieu, notre colère, elle peut être transformatrice. L'authenticité de notre indignation, que l'on ressent dans notre chair, au plus profond de nous-mêmes, peut faire changer les choses. Nous ne pouvons pas faire semblant ou ignorer quand nous discernons que quelque chose est contraire au royaume de Dieu. En tout cas, moi, ça brûle, quoi. Quand quelque chose va à l'encontre de son amour. Et cette indignation-là, elle peut véritablement impacter le monde, ou en tout cas votre monde. Et même si parfois on a l'impression que c'est inutile, qu'on ne va pas réussir à changer le monde, c'est pas ça l'important. Nous ne voyons pas toujours les fruits de ce qu'on fait, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas appelés à sauver le monde, c'est Christ qui sauve le monde. Nous sommes appelés à construire le bien. Alors, mettez-vous en colère, mais faites-le suivant l'exemple de Christ. J'ai mis les références, si vous voulez prendre en photo et relire tout ça pendant cette semaine. Et merci pour votre écoute et votre attention.
Merci Noémie pour votre prédication. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de prière communautaire. Donc chacun peut prier à haute voix ou pas, dans son cœur, comme il veut. Et puis moi, je terminerai ce temps de prière dans quelques minutes. Voilà. Seigneur, je te remercie infiniment pour ta sagesse et pour ta bienveillance. Et je te demande que tu reverses encore une fois ton Saint-Esprit dans nos cœurs, car c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous communique ta volonté. Et j'aimerais encore une fois te demander que tu nous transformes à ton image. Que tu utilises nos émotions pour devenir ceux et celles que tu aimerais qu'on soit. Merci pour ta bonté, Seigneur, et que tu nous regardes avec des yeux, en fait, pleins d'amour. Merci pour ça. Amen.
Ensemble, nous voulons chanter la prière que Jésus nous a apprise, la prière du Notre Père.
Pardonne-nous nos offenses. ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père.
Merci beaucoup. Nous avons chanté ce chant parce que maintenant on va fêter la scène. Et puis bon, personnellement, moi j'adore ce chant et je trouvais important de le chanter maintenant, avant la scène. Donc voilà, je vais laisser Joël introduire tout ça et on va continuer après.
Merci. Je n'ai pas grandi en apprenant beaucoup à exprimer certains sentiments. Et à propos de la colère, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils s'imaginent bien que je suis assez calme. Elle sort quand même de temps en temps. Et parfois, elle devient difficile à maîtriser. Je vais reprendre certains éléments qu'on a déjà entendus. Des fois, elle est bien là. On essaie de la contenir jusqu'à ce qu'elle explose. Mais en fait, elle doit bien pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et je repensais à celle de Caïn face à ce qu'il considérait comme une injustice. Dieu lui dit « À quoi bon être fâché et abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. » Celle de Caïn, elle a été lourde de conséquences. D'autres fois, la colère, elle passe sans laisser vraiment de traces visibles. C'est peut-être bien, ou pas. Parce qu'effectivement, des fois, ça mérite qu'on s'indigne face aux injustices qui nous touche directement, ou celle dont nous sommes témoins depuis plus ou moins loin, y a de quoi réagir. Et il faudrait certainement qu'on réagisse plus. Il y a des fois où on se contient beaucoup trop. Des fois, il faudrait que notre colère face aux injustices de ce monde ait des répercussions plus importantes dans notre manière de vivre. Mais heureusement, il y a un moment où ces injustices elles stopperont. Il y a un moment où la justice de Dieu se manifestera, où sa vengeance, entre guillemets, celle de Dieu, parce que ce n'est pas la nôtre, où sa vengeance aura lieu. Parce que justement, cette colère de Dieu face à son peuple qui a tant de peine à respecter les commandements, à respecter la justice, que ce soit dans le désert il y a bien longtemps, dans le pays promis, que ce soit face au roi, face au peuple, parfois même face aux prophètes. Mais la colère de Dieu est différente. Parce que Dieu est différent. Dieu est saint, Dieu est juste, et ses plans sont parfaits. Et même si des fois on ne comprend pas tout, on ne réalise pas à quel point il est saint, il est juste, il est parfait. Dieu a de quoi se mettre en colère, lui. Contre son peuple, contre les injustices, contre moi. Et pourtant, il aime son peuple. Il m'aime. En même temps, il est lent à la colère. Et surtout, il a payé le prix. Et il ne restera pas en colère contre moi. C'est ce que nous voulons vivre, signifier justement avec ce temps de scène. car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais Dieu restera en colère contre lui. Jean 3, 36. Jésus, lui, a pris cette colère sur lui, en mourant à notre place sur une croix. Alors Jésus prend le repas de la Pâque, la fête juive, avec ses disciples. Un repas de fête un peu spécial, avec son déroulement traditionnel. Et Jésus sait que c'est son dernier repas avant d'être arrêté et de passer par la croix. Alors aujourd'hui, comme la plupart des dimanches, en communauté, on partage ce temps, ce pain, ce vin ou du jus de raisin, en souvenir de ce qu'il a fait.
Voilà, et avant de prendre ce repas, j'aimerais juste lire l'institution dans Matthieu 26, les versets 26 à 29. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau » je le boirai nouveau, avec vous, dans le règne de mon Père. J'aimerais juste faire une courte prière avant qu'il y ait la distribution. Merci Jésus de t'être donné sur la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Tu l'aurais fait aussi même s'il y avait eu une seule personne sur terre, tu serais venu pour elle, pour la sauver elle. Merci que tu nous ouvres le chemin vers toi, à travers ton sang, à travers ton sacrifice. Que nous prenions maintenant ce repas avec honneur pour toi et en pensant à toi avec dignité. Merci. Amen. Est-ce que deux ou trois personnes pourraient s'avancer pour la distribution, s'il vous plaît, et nous aider ? Merci.
Merci Seigneur pour ce vin, ce pain, ton sang qui a coulé, ton corps qui a été brisé. Merci parce que par la croix, cette colère qui pouvait nous être destinée, elle nous passe au-dessus et elle retombe sur toi. Que cette vie que tu nous donnes, cet accès à ton royaume, nous puissions l'accepter dans notre vie et qu'il puisse porter du fruit pour qu'on puisse vivre ton royaume ici, maintenant, même si c'est encore quelque chose qui est aussi à venir, que maintenant nous puissions vivre ton royaume, ta présence, ton salut dans nos vies et le partager autour de nous. Amen.
Merci beaucoup. Gentiment, on arrive à la fin de ce culte et on aimerait bien, on chante encore un dernier chant, Rédempteur du monde. Et puis pendant ce chant, on va prendre la collecte. Et vous savez, vous connaissez maintenant ces petits pots-là. Moi, je les appelle les pots de fleurs parce que j'adore les fleurs. Mais voilà, il y a le code TWINT si vous voulez, donné par TWINT, ou vous pouvez mettre dans les pots ou rien mettre du tout. Vous faites comme vous voulez. C'est vraiment totalement libre. Donc voilà, je laisse la parole à l'équipe de louanges. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Nous venons au temps des annonces. Alors, il y en a quelques-unes. La première, c'est la demande, s'il vous plaît, si vous pourriez empiler les chaises à la fin du culte par 10. Parce que si j'ai bien compris, la semaine prochaine, c'est la semaine de la grande semaine, c'est ça. Et il y a l'équipe qui organise tout ça. Elle vient cet après-midi pour tout mettre en place. Donc, merci d'empiler les chaises par 10. Ensuite, il y a Claude qui a une annonce.
Alors, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 20h au Centre œcuménique de Mérin, parce qu'il y a le spectacle d'Adonia, de Rahab. Donc, c'est un magnifique spectacle avec des adolescents. Merci déjà aussi à tous ceux qui en accueillent pour la nuitée, ça c'est très cool. Mais n'oubliez pas, ce vendredi à 20h au Centre œcuménique, donc ce spectacle avec une septantaine d'adolescents, de jeunes, pour ce spectacle. Je profite juste aussi pour rappeler qu'il y a encore ces fascicules, un quart d'heure pour l'essentiel, donc il concernait Pâques, mais je crois qu'il est encore distribuable. Il nous en reste une petite série, donc ce serait dommage de le jeter au vieux papier. Alors prenez-en quelques-uns, puis vous les glissez dans les boîtes aux lettres de vos voisins. Merci beaucoup.
Merci. Et puis il y a Alexandre qui voulait nous dire quelque chose, n'est-ce pas ?
Alors, bonjour à tous. Voilà, je voulais vous annoncer mon départ. Donc, juste après le culte, je rentre chez moi sur Paris. Donc, je suis venu ici pour un stage en janvier. Donc, ça fait déjà 4 mois. Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier tous. Parce qu'ici, j'ai trouvé une famille. Je suis arrivé ici dans la région tout seul, pas d'amis, pas de famille. J'avais vraiment aucune connaissance. Mais le fait de me rendre ici au culte avec vous, ça me remplissait le cœur d'amour. Donc je voulais vous remercier pour qui vous êtes, tous ces moments passés ensemble, les sourires, la Pâque également qu'on a célébré. Et également, je voulais vous dire que des fois, quand on est jeune comme moi, on arrive tout seul dans un endroit, on se sent un peu déboussolé, mais vous avez été cette boussole en fait. Et vous m'avez aidé à garder aussi cette intimité avec le Seigneur, ce qui est très important pour moi. Donc je voulais vous remercier. Vous souhaitez une bonne continuation et puis voilà, je vous donnerai des nouvelles pour la suite. Merci encore.
Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Mais Claude, tu peux volontiers venir avec nous. Merci. Seigneur, on te remercie pour Alexandre qui était parmi nous. On te remercie pour sa joie, sa manière joyeuse d'être. Merci d'avoir fait connaissance avec lui et je te demande de le protéger pour son retour. Et tu sais déjà ce qui va se passer à Paris et je te demande d'ouvrir les portes qu'il faut pour lui. Et puis de lui donner les signes qu'il faut pour qu'il puisse suivre ton chemin. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour Alexandre. Il a pu faire un bout de chemin avec nous et nous avec lui. Et Seigneur, j'aimerais te le remettre dans son retour à Paris. Seigneur, qu'il puisse aussi trouver une famille. Et Seigneur, il y en a tout plein. Qu'il puisse trouver une qui lui convienne. Et Seigneur, qu'il puisse progresser avec cette relation avec toi. Car Seigneur, c'est vrai, ce qui est important, c'est cette relation que nous pouvons avoir avec toi. Alors Seigneur, guide-le pour cette famille qu'il trouve là-bas, qu'il trouve à Paris. Et Seigneur, nous voulons te le remettre entre tes mains bienveillante, bienfaisante, Seigneur, et qui guide et sur ce chemin de la vie, parfois semé d'embûches, mais Seigneur, une belle vie, une vie intense avec toi. Amen.
Merci. Merci, c'est gentil.
Voilà, et puis pour la dernière annonce ce matin, samedi prochain, donc le 18 avril, il y a un culte de guérison avec Lucie Dilboug. J'espère que je prononce bien. Je vous ai apporté des petits flyers. Attends, il faut juste que je trouve. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien depuis derrière, mais c'est comme ça. J'en ai encore 5. Je vais les mettre là-bas à la sortie. Vous pouvez en prendre un avec vous. Donc, au début, il y a une partie de louange. Après, il y a une partie de témoignage et de message. Et à la fin, on prie pour les malades. Enfin, les gens prient pour les malades. Donc, si vous êtes malade extérieurement, j'ai envie de dire, ou intérieurement, et que ça vous intéresse, ben, venez à ces cultes, et vous serez certainement guéri, on l'espère en tout cas. Donc voilà, je voulais juste faire de la pub pour ça, parce que ça a l'air très intéressant. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces selon ce qu'on m'a dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas ? Ok, ben, alors je vous demande... Ah, si ? Pardon ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, de psalmodie, j'ai pas. Mais alors, tu peux faire l'annonce toi, parce que moi, je.
Enfin, j'ai vu aussi ce matin. Donc, Psalmody, c'est un groupe de musique, enfin de chant magnifique. Et ils fêtent leur 40e anniversaire à l'espace Esther House, qui se trouve donc à la place des Délices à Genève. Et c'est le jeudi 16 avril, donc c'est ce jeudi à 20h. Donc jeudi 16, là-bas, le 17, ici chez nous, au Centre œcuménique. Donc vous voyez, il y a plein de choses encore pour égayer, pour animer cette semaine de Pâques.
Merci beaucoup. Alors je vous demanderai de vous lever pour la bénédiction. Elle est tirée du psaume 64. À partir du verset 8. Donc, dans ce psaume, au début, on parle des gens qui sont des mauvaises langues et qui cherchent à nuire aux autres. Donc ça, je ne vous lis pas. Je vous lis la fin du psaume qui est bien plus positive. Mais Dieu tire ses flèches sur eux, donc sur les mauvaises langues. Et tout à coup, les voilà touchés. Leur propre parole les a fait tomber. Et tout le monde hoche la tête en les voyant. Tous sont impressionnés. Ils racontent ce que Dieu a fait. Ils comprennent le sens de son action. Que les justes trouvent auprès du Seigneur la source de leur joie et leur refuge. Que ceux qui ont le cœur droit en soient fiers. Et avec ceci, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, une bonne suite de cultes et un café vous attend. Merci à tous qui ont contribué au bon fonctionnement de ce culte. Merci. Bon dimanche.